C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes ? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert ? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Salut, c'est Charles Cécile. Où va la main, va le regard. Où va le regard, va l'esprit. Où va l'esprit, va l'âme. Où va l'âme, là est l'émotion, dit le maître de Katakali à son élève. Coup de pied, envolé, doigts déliés, yeux et sourcils mouvants. Et si l'on dansait les histoires, aujourd'hui, c'est pas pour dire, cher auditeur, mais tu risques les courbatures. Séance de Katakali avec Nathalie Le Boucher.
100 km. Il s'étire sur plus de 2700 km. Ganga River, le fleuve Gange. À 6600 mètres d'altitude, sur les hauteurs de l'Himalaya, il prend sa source. 3000 mètres plus bas, de l'antre de Gomukdi, la bouche de la vache, il jaillit. Donne naissance à la rivière Bhagavati, contourne la petite cité de Devaprayag où il épouse le fleuve Alaknanda et prend le nom de Gange. Passe la chaîne montagnarde de Shivalik, où contourne la petite cité d'Haridwar pour s'écouler enfin le long de la large plaine du nord de l'Inde, direction l'est. Arrose les villes de Mirzapur, Allahabad, Kanpur, Benares, la glorieuse Calcutta, pour se jeter enfin dans les eaux du golfe du Bengale. On dit que c'est l'un des fleuves les plus puissants du monde. Déchets, eaux usées, bêtes crevées, linge sale, vaisselle à laver, milliers de pèlerins qui viennent s'y baigner, corps sans vie. Il prend tout dans son lit. On dit que c'est aussi le plus pollué du monde entier. Et pourtant, chaque année, des milliers de pèlerins viennent s'y baigner. On dit que ces eaux ont la vertu de purifier le corps des humains et de libérer l'âme des défunts. Alors, qui est vraiment le Gange ? D'où vient-il ? Quel est son secret ?
Dis-moi, Nathalie, donc tu fais des spectacles qui utilisent le Katakali ?
Où j'associe le théâtre dansé Katakali et la parole.
Alors, si tu pouvais nous dire la naissance de ce projet-là, qu'est-ce qui t'a donné aussi, à un moment donné, envie, toi qui venais du théâtre, hein ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie
de partir vers
les arts du récit, hein ?
Alors, à la base, moi, j'ai eu une formation de comédienne. J'ai passé un bac à trois théâtres. Et puis, au cours de ce cursus, on a fait un stage de maquillage de Katakali. Et là, j'ai découvert l'art du Katakali. Et le Katakali, c'est un théâtre dansé de l'Inde du Sud, du Kerala, où l'acteur va danser, va s'exprimer uniquement avec le langage gestuel, le regard, les expressions du visage, tout le corps. Il y a des chanteurs qui chantent le texte et il y a l'acteur qui dit chaque mot du texte avec le langage gestuel. Et moi, ce qui m'a intéressée quand j'ai fait ce stage de maquillage, qui n'était qu'un stage de maquillage, c'est tout le regard. Voilà, sur les photos, les diapositives qu'on a vues, ce jour-là, c'était le regard des acteurs. Et voilà, il y a une fascination, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Et du coup, après le bac, j'ai décidé, bac à trois théâtres en poche, j'ai décidé de partir en Inde pour avoir une petite formation de 8 mois. Parce que moi, j'étais très intéressée.
Oui, une petite formation de 8 mois.
Et je suis restée 8 ans finalement.
Ah bon ?
Mais oui, parce qu'au départ, j'étais intéressée par le théâtre du soleil. Par le travail qu'il faisait, parce que j'aimais beaucoup le travail sur le corps dans le théâtre. J'ai toujours rêvé de faire de la danse, mais j'étais consciente que j'en avais jamais fait, donc me mettre à 20 ans à la danse. Donc voilà, c'était le théâtre, j'ai fait formation théâtre, mais c'est vrai que le travail du corps dans le théâtre, c'était vraiment ce qui m'attirait. Voilà, donc le théâtre d'Ariane Mouchkine, tout ça, donc je me suis dit, je vais faire une petite formation. Et je suis arrivée là-bas, je n'avais jamais vu vraiment de Kathakali, je n'avais vu que des photos. Je suis arrivée en Inde, le lendemain de mon arrivée, j'ai fait mes premiers pas de Kathakali. Et puis le surlendemain, j'ai vu le premier spectacle de Kathakali. Et là, je suis restée juste scotchée toute la nuit, parce que le Kathakali, ça dure de 10h du soir à 6h du matin. Avec 3 histoires qui se jouent. Donc ça raconte les épopées de l'Inde, le Mahabharata, le Ramayana, d'autres poèmes épiques. Et là, je suis restée bouche bée toute la nuit. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et c'est un théâtre c'est un théâtre d'hommes à la base. Donc où l'acteur... Les hommes vont jouer aussi les rôles de femmes. Donc des rôles de démons, de héros, d'héroïnes. Mais les femmes qui apprennent le Kathakali, parce qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit, donc qui permettent aussi aux femmes de danser, elles peuvent jouer les rôles d'hommes. Et ça, cette ambivalence me plaisait aussi. Vraiment un travail du corps à part entière, un travail de composition.
Dans une pièce de théâtre de Kathakali, par exemple, combien de comédiens sont en général, en moyenne, sont présents ?
Alors, il y a un solo en Kathakali. Après, il y a au moins 2 personnages sur scène, donc ça peut aller jusqu'à 3, jusqu'à 4, jusqu'à 6. Il y a un moment donné où il y a une partie de jeu de dés entre 2 clans cousins ennemis dans le Mahabharata, et là il y a tous les héros, tous les personnages, les héros, les démons qui sont là sur scène, donc ils peuvent être 8, 9, ça arrive.
La fameuse partie de dés où le héros va perdre jusqu'à sa femme.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, ce Kathakali était accompagné de musiciens ?
Oui, le Kathakali, il y a des chanteurs qui chantent le texte, 2 chanteurs qui chantent le texte et qui donnent le rythme de base avec des cymbales. Et il y a 2 percussionnistes, un Uchanda, c'est un percussion à baguette, et un Madalam, percussion à main, qui accompagnent chaque geste et mouvement de l'acteur.
Voilà. Alors toi, dans ton travail en France, as-tu retrouvé des musiciens ?
Alors, pas de la percussion du Kathakali, pas la percussion pure du Kathakali, mais moi quand je suis rentrée en France, j'ai joué le Kathakali mais sur cassette, c'est-à-dire que j'avais enregistré, fait enregistrer en Inde les chants, surtout une histoire qui est en solo pour que je puisse la danser. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est bon, donc je suis restée 8 ans en Inde à apprendre le Kathakali, mais au bout de 4 ans, je faisais quelques petits allers-retours en France, et il y a eu un été où je suis venue à Vendôme par une amie qui m'a présenté Bruno de la salle, et Bruno venait de jouer l'Odyssée, et j'étais émerveillée par le travail qu'il avait fait sur l'Odyssée, et pour moi ça avait la force du Kathakali.
Donc, et c'est très étonnant, parce que autant le Kathakali est extrêmement expressif, avec une gestuelle, hein, autant moi qui ai aussi vu l'Odyssée de Bruno de la Salle, là on a quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses, qui va jusqu'à fermer les yeux quand il raconte, et finalement qui reste assez statique, et pourtant on part aussi en voyage. Hein. Oui. Donc finalement, c'est à la fois une forme très différente.
Il y a une force. Enfin, moi, ce que j'ai reçu de Bruno quand il a raconté l'Odyssée, il y avait vraiment une puissance. Mais il était aussi accompagné de Jean-Paul Aubou, flûtiste indien, et John Boswell, qui l'accompagnait aux percussions indiennes et autres. Donc ce mélange, mais oui, c'était la puissance de cette épopée, la façon dont elle était restituée par ce parler chanté, que l'on retrouve aussi d'une certaine manière, d'une autre façon, mais avec la même puissance en Inde, dans le chant du Kathakali ou d'autres formes de théâtre dansé. Parce qu'en Inde, en fin de compte, le conte, la danse, le théâtre sont indissociables. Alors des fois, il y a le théâtre qui va prendre plus de place que le conte, des fois le conte va prendre plus de place dans la forme, mais c'est toujours chanté, c'est toujours dansé. Ça m'avait transporté, mais autant qu'un spectacle de Kathakali.
Le royaume des cieux. Au royaume des cieux, il y avait le créateur du cosmos, le dieu Brahma. Complètement avaché sur le serpent du temps. Non loin de là, il y avait le destructeur du cosmos, le dieu Shiva. Lui aussi avachiché sur le serpent du temps. Entre le dieu Shiva et le dieu Brahma, Vishnu, protecteur et préservateur du cosmos, Yendamo, et Trachudana, can not stand it, not it's so hot. Please, Shiva, Brahma, give me some hair, no, I cannot stand it, no. You, I don't know what happened today. Thank you very much. Thank you very much. Au royaume des cieux, ce jour-là, il faisait chaud. Si chaud que le dieu Vishnu a transpiré des pieds. Sur le bout de son orteil droit, une goutte de sueur. Plouc ! Aussitôt, le dieu Brahma, le créateur, l'a recueilli dans le creux de ses mains. Il l'a déposé dans le jardin desséché des dieux. La petite goutte de sueur s'est mise à rouler, glisser entre les fleurs et les plantes. Petit ruisseau, petit cours d'eau, elle est devenue rivière. Rivière qui a rafraîchi toute l'atmosphère. Et au milieu des eaux est apparue une déesse, la déesse Ganga, aussi fraîche que la rosée du matin. Yendamo! Is looking so fresh. Alors aussitôt le dieu Vishnu s'est précipité sur elle, il l'a pris dans ses bras et Sarasvati, what are you doing here? Ce que je fais là, moi, Sarasvati, ta chère et tendre épouse. Reste loin de ta voix, Ganga, j'en ai pas fini avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Vishnu? À flirter avec une autre, qui plus est la chair de ta chair. Shemile, aïe. Go home. Go home, I'm coming in 5 minutes, we have to talk together. Po! Po! À nous deux, Ganga. Petite dévergondée à peine née. Alors comme ça, on ose flirter avec Vishnu, mon époux. Qui plus est ton père. Very nice. Pour la peine, le temps venu, tu descendras sur la terre sous la forme d'une rivière qui prendra dans son lit toutes les impuretés du monde. Qu'il en soit ainsi, à jamais. Et à jamais, elle a scellé le sort. S'est redressée. Eh bien, puisque c'est comme ça, toi aussi, Sarasvati, tu vas couler sur la terre, mais sous la forme d'une rivière qui, au fil du temps, se desséchera, disparaîtra à jamais, et que cette malédiction arrive sur le champ. Small problem? Trop jeune. Trop jeune. Tu vas voir si je suis trop jeune. Et Ganga s'est fortement concentré. Et aussitôt, la déesse Sarasvati s'est mise à couler sur la terre. Direction l'ouest, le Rajasthan. Et au fil du temps, elle se desséchera. Elle disparaîtra et laissera derrière elle le grand désert du Thar. Quant à Ganga, elle ne perd rien pour attendre, car elle aussi, le temps venu, elle devra descendre sur la terre.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tu rencontres Bruno de Lassalle qui raconte l'Odyssée.
Voilà,
toi, tu reviens d'Inde avec ton expérience du Kathakali. Qu'est-ce qui se passe?
Je dis à Bruno, ah, j'ai adoré ce spectacle, ça a la puissance du Kathakali. Et puis, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous êtes libre dans 2 semaines? Je lui ai dit, oui. Donc, il m'a proposé de venir animer des ateliers sur la gestuelle sans m'avoir vu, sans avoir vu mon travail. Donc, moi, j'ai accepté de suite et je ne connaissais pas du tout l'univers du conte. Je ne connaissais pas du tout. Je venais du théâtre. Et là, je viens, donc, une semaine avant Dôme, c'était en 1996, pour animer des ateliers. Et je découvre l'art du conte. Et là, j'étais épatée aussi. La façon de raconter, bon, moi qui venais du théâtre, où on se base sur un texte, où le texte est déjà écrit, où on incarne un personnage. Et là, je voyais des personnes qui parlaient. En même temps, c'est très vivant. Ils étaient capables d'élaborer une histoire comme ça. Et puis, par moments, prendre les voix des différents personnages.
Avec une apparente facilité.
Voilà, avec une apparente...
Comme tout ce qui a été bien travaillé avant.
Voilà c'est ouais, ça. Il y avait une force. Et en même temps, on avait l'impression que c'était naturel. Et ça nous transportait. Et alors là, voilà, j'ai découvert un autre univers. Et puis Bruno m'a dit, bon, il va falloir que tu racontes un soir. Je lui ai dit, moi, je sais pas raconter. Et je n'ai pas, pas ouvert la bouche depuis 4 ans. Je venais du théâtre. Il me dit, tu te débrouilles. Donc, j'ai pris son percussionniste, John. Je lui ai dit, écoute, j'ai un solo en Kathakali. Est-ce que tu m'accompagnes? On va improviser. Puis, on n'avait pas beaucoup de temps. Je devais passer le lendemain. Il y avait des masterclass l'après-midi, des ateliers le matin, les spectacles le soir. Donc on a travaillé une demi-heure peut-être sur ce solo au Kathakali. Je lui ai dit, on improvise. Et j'avais rien à perdre, donc j'y suis allée comme ça un soir. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me dis, mince, il y a quelque chose. Et puis l'année d'après, Bruno m'a de nouveau invitée. Et puis quand je suis rentrée, et puis du coup, ça a fait son chemin. Je suis rentrée en Inde, j'ai repris mes cours, les spectacles. Et ça faisait son chemin. Puis c'était une période aussi où je me disais, bon, ça fait 4 ans que je fais du Kathakali, je vais encore continuer là-bas à danser et à apprendre le répertoire complet. Mais voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, je me dis, mais il y a quelque chose à faire vraiment avec le conte et le Kathakali, enfin la parole et la gestion.
T'as trouvé une voie nouvelle, quoi, en fait.
Disons que ça travaillait en moi. Et puis quand je suis rentrée définitivement en France en 2000, Bruno m'a invitée à intégrer l'atelier Fahrenheit. Voilà. Et là, je suis venue, il m'a dit, il faut que tu racontes vite. Et moi, j'étais dans mon coin et j'observais. Enfin, j'avais besoin d'observer. C'est vrai que j'avais peur aussi de ma propre parole. J'avais l'impression que j'étais incapable d'aligner un mot derrière l'autre. Et j'ai regardé. Puis un jour, j'ai dit, OK, on pouvait aller raconter une matinée dans une maternelle. Et j'ai pris un conte et voilà, j'ai commencé à travailler. Et moi, l'idée, en fin de compte, c'était de pouvoir raconter la mythologie indienne. Bon, entre-temps, j'avais monté un spectacle avec le percussionniste John Boswell, où on racontait 3 histoires de la mythologie indienne sur le thème de la femme. Mais la parole n'était là juste que pour accompagner la gestuelle, juste pour guider l'histoire. Donc elle était très ponctuelle, elle était très concise. Donc ça a été vraiment la première étape. C'est un spectacle qui s'appelait Asura, c'était sur les démons. Les démons et les déesses qui combattaient les démons. Donc ça a été la première étape et puis après j'étais toute seule et j'ai commencé à mettre en place les récits de la mythologie indienne. Et au départ, donc sans percussionniste, je me suis dit, bah, je vais. J'avais pas trop d'idées, même avec Bruno, on réfléchissait comment on peut justement allier gestes et paroles sans que ça soit redondant. Et au début, moi, je n'ai pas voulu trop me prendre la tête. J'ai fait un peu à l'instinct, à l'intuitif. Je me suis dit, je vais tout balancer en vrac, paroles et contes, et on va voir ce qu'il en ressort. Et la chose qu'il y avait à faire, c'est que je désamorce aussi par rapport à la forme très structurée du katakali. Donc, je me suis dit, le corps, je n'y touche pas. Je vois, après ces années de formation, comment le corps réagit, comment les gestes sortent. Par contre, le travail que j'avais vraiment à faire, c'était sur la parole. Et comme moi, je n'avais pas une aisance dans la façon de m'exprimer verbalement, je me suis dit, il faut que je sois très concise. Sujet, verbe, complément, point, sujet. Voilà, d'être très concise et d'être... Et comme ces histoires de la mythologie indienne aussi sont très... comment dire, très foisonnantes.
Oui.
Il fallait que je sois très précise et pour faire passer ces histoires aussi, parce que ce sont des histoires qui sont très mal connues, je pense, méconnues, encore très mal connues. J'avais envie de les transmettre et être très claire, voilà, que le public a envie de les écouter.
Sagara entreprend le plus grand des sacrifices, le sacrifice du cheval. Le sacrifice du cheval ? Le roi qui désire accomplir ce sacrifice va dans son écurie, il prend un cheval blanc, le plus beau, le plus puissant, il pose sur sa tête l'emblème royal, et avant de le sacrifier sur l'autel des lieux, il le lâche, sans cavalier, libre de galoper où bien lui semble, pendant toute une année. Toutes les terres qu'il foulera de ses sabots tomberont sous le joug du roi. Quiconque voudra revendiquer ses biens devra se battre contre l'armée du souverain. On organise les festivités. Le roi Sagara va dans son écurie, il ramène un cheval blanc, le plus beau, le plus puissant. Il pose sur sa tête l'emblème royal, caresse son flanc. Choula ! Voilà le cheval blanc qui s'en va au galop. Sans cavalier, libre d'aller au bon lui semble pendant toute une année. Derrière lui, l'escorte royale. Les 60 000 fils du roi Sagara, montés sur de beaux étalons crins noirs. Le cheval galope. Il pénètre les états voisins. Toutes les terres qu'il foule de ses sabots le joug du roi. Personne n'ose revendiquer ses biens. Qui voudrait se battre contre l'armée du souverain, les 60 000 fils du roi Sagara? Le cheval blanc parcourt la terre entière. Il franchit bientôt les Himalayas. Il gravit sa plus haute montagne. Le bruit de ses sabots résonne dans le ciel. Et là-haut, le dieu Indra Celui qui préside les dieux? Le délégué des dieux? What is happening? Everything is trembling. Un cheval blanc qui grimpe vers le ciel. Sur sa tête, l'emblème royal. Mais s'il vient jusqu'ici, il me détrônera. Il prendra mon titre de roi. Aussitôt le dieu Indra monte sur son char céleste. Il fonce sur le cheval blanc, le saisit par le harnais et l'emporte avec lui dans sa course. S'engouffre dans les profondeurs de la terre. Première région sous terre. Deuxième région sous terre. Passe l'antre des démons. Quatrième. Septième région sous terre.
Nathalie Le Boucher, c'est sportif l'épopée.
Mais l'épopée, ça dure 6 heures. Tu as le temps de rentrer dedans, tu as le temps de t'installer et tu pars dans une autre dimension. Comme je disais, on fait du sport, c'est pareil. Je pense que les sportifs, on nage, on commence à nager, on fait des longueurs. Au début, on est fatigué. Puis au bout d'un moment, les longueurs, elles deviennent faciles et on est dans quelque chose qui nous entraîne et on sort de l'eau, on est bien, on a l'esprit ouvert, on a... voilà, je me dis que finalement, le sport, le conte, dans cette veine-là de l'épopée, c'est la même... Il y a une endurance, c'est la même énergie, oui. Bon, quand je sors de scène, le plus, c'est que voilà, j'ai raconté une histoire, des histoires de la mythologie indienne, des histoires dits dieux, qui en plus emportent l'esprit en plus du corps. Mais je me dis que... L'histoire, après tout, c'est un prétexte pour atteindre ce dépassement de soi, de son esprit. C'est un prétexte pour atteindre cette chose-là, cette autre dimension. C'est pour ça aussi qu'en Inde, danse, théâtre, contes sont indissociables, parce qu'ils ont compris ça. L'esprit s'élève si tout le corps participe aussi... Le corps et l'esprit participent à cette élévation.
Même mouvement.
Ouais. Donc il y a la musique, il y a la danse, il y a le chant, il y a l'histoire, l'intellect.
Il était bien vivant. Autour de lui, il avait allumé 5 feux. Vu du ciel, on aurait dit un immense brasier ardent. Tous les dieux se sont penchés, ils ont regardé. My goodness! Ce descendant du roi Sagara va brûler l'univers tout entier. Alors ils se sont tous tournés vers la rivière céleste, la déesse Ganga. Why are you looking at me like this, no? Ah, no. I will not go down. Don't insist, no. Nyan poila. I have to tell you in French, no? Je ne descendrai pas. Shiva, Brahma, Vishnu. What are you doing here? Ce qu'on fait là, Brahma, Shiva et moi, Vishnu. Allons, Ganga, tu aurais tout oublié? Souviens-toi, il y a quelque temps de cela. Le baiser, la gifle, Sarasvati, la malédiction qui pèse sur toi. Et qui, le temps venu, doit prendre effet. Eh bien, le temps est arrivé de descendre sur la terre, et tu n'as pas le choix, car toute malédiction non accomplie, c'est le malheur assuré pour l'univers tout entier. Moi, Ganga, si je descends sur la terre, avec la puissance de mes flots, j'emporterai l'univers tout entier. No problem! Le dieu Shiva a poussé tous les autres, il a dit « I am here ». Et à peine il avait dit ces mots, il est descendu sur le sommet du mont Kailash, la montagne la plus haute de la terre, la montagne où il vit avec son épouse, la charmante Parvati. Et là, sur le sommet de la montagne, il a mis ses poings sur ses hanches. Il a d'abord noué en chignon son épaisse chevelure. Come on, Ganga. Come on. Descends et chute aussi fort que tu le veux. Moi, Shiva, je freinerai tes flots dans ma chevelure. J'endiguerai tes eaux et je freinerai, j'écraserai ta fierté. Come on, Ganga.
Nos amis de l'ensemble Mukta, 74 miles. Nous sommes dans la salle de la chapelle Saint-Jacques et nous sommes à la sortie du spectacle de Nathalie Leboucher. Spectacle qui a laissé les gens admiratif. Donc Nathalie fait maintenant le tour un petit peu des invités qui lui disent, lui donnent leurs impressions.
Merci.
Ce que vous avez bien réussi aussi, c'est créer une attente chez le spectateur. Oui. Assez souvent, les gens, l'action était en suspens et là, tout le monde pouvait s'imaginer sa suite personnelle.
Ouais.
Puis alors vous, vous arriviez avec la vôtre.
Les postes, c'est aussi un rendez-vous de professionnels. Donc c'est intéressant d'avoir le retour des uns et des autres.
Là, c'est la conteuse Agnès Ollard.
From the sky, over the sky, very impression.
Very nice, very pretty, you know. This girl is very pretty, fresh.
Là, c'est la conteuse américano-libanaise Teresa Hamoun.
Something, you know, to see all these gods, these demons, these people, these 60,000 people. It is incredible, you know.
Alors, je ne sais pas, c'est du Bollywood ou bien du palestinien. Bon teint, il faut voir.
Non, c'est de l'anglais indien.
Et ben moi j'ai passé une très très belle soirée.
Gérard,
et c'est
Obst.
Vrai, hein, ce que je disais, c'est un spectacle qui devrait être joué dans 300 fois, 500 fois, que tout le monde devrait voir, et dans les théâtres, dans des lieux de théâtre habituels, quoi, pas dans des médiathèques, parce que c'est vraiment unique, formidable. Et ce qu'elle nous fait passer, c'est de la mythologie indienne, qui est sûrement aussi compliquée que, si ce n'est plus que la mythologie grecque, et elle arrive à nous rendre ça très simple. Il y a une autre, il y a une spiritualité, il y a une mythologie, et puis tu essayes de... Là, par exemple, je vais rentrer et je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre ces 60 000 enfants, entre ces dieux, ces Brahma, Vishnu et Shiva, entre leurs femmes respectives. Et j'avais vu la dernière dont on n'a pas parlé, qui est donc vraisemblablement la femme de Shiva, qui s'appelle Durga. Et j'ai vu à New Delhi une statue de Durga qui était... Tu tombes amoureux de cette statue tellement elle était belle.
Catherine Zarkat.
C'est magnifique à la fois, il y a toute cette robe, cette eau, cette puissance, etc. Qui est intéressant, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, il y a tout le côté anglais là, qui est tellement génial, que tu vois, c'est quand même génial. Et puis en même temps, les endroits les plus sacrés, ils sont là, quoi, c'est beau. Et le passage central, là, tout d'un coup, il y a du catacalypse pur. Quoi.
Alors Ganga, tu voulais fendre mon crâne, broyer mes os, m'emporter avec toi et le reste de l'univers, rien ne peut t'arrêter. Comment que je te libère? Je te libérerai quand tu seras calmé. Et le dieu Shiva rentre à la maison avec dans son chignon bien serré la déesse Ganga. Et juste à ce moment-là, la déesse Parvati, l'épouse du dieu Shiva, rentre au logis, elle se blottit dans les bras de son mari.
Shiva, what is happening? You full of water? Et tes cheveux sont tout mouillés.
Aïde, oh non, il est là. C'est juste la rivière céleste qui est un tout petit peu débordée.
Mais là, ce sont bien... De grands yeux que je vois.
Deux petits poissons coincés dans mon chignon. Mais dis-moi, Parvati, serais-tu jalouse de quelques gouttes d'eau qui perlent sur mes cheveux? I'm not jalouse.
Thank you.
Nathalie, tu es fidèle au texte d'origine. D'où viennent ces textes ?
Bon, il y a des histoires que j'ai entendues en Inde. Et puis, l'histoire des fils Sagara. Alors, je l'avais dans l'encyclopédie des Puranas. Donc, c'est un gros livre où il y a tout. On cherche un dieu et il y a toute son histoire, alors succinctement. Donc là, il y a dans l'océan des histoires aussi, où il y a cette histoire-là, mais elle est écrite en 10 lignes. Et moi, j'ai développé l'histoire de l'allaitement avec les nourrices. Ils n'en parlent pas du tout, c'est moi quand la courge... Il y a plusieurs versions, et moi j'ai voulu cette version avec la courge et les petits fœtus, et après j'ai imaginé... Alors c'est vrai que tout d'un coup, ça met du temps avant qu'elle soit enceinte. Ils ne disent pas le temps vraiment, mais du coup moi j'ai voulu mettre un peu les années quand même pour donner une grandeur... Et puis
pouvoir mettre quelques images dessus aussi.
Voilà, quelques images, tant qu'à faire. Voilà, aller dans la démesure comme ils font dans le Katakali. Donc je suis allée un petit peu dans la démesure. Et de toute façon, c'était les 60 000, je ne les ai pas inventés. Hein. C'était vraiment la courge. Oui, les 60 000 fœtus, la courge, je n'ai pas inventé. Après, moi, j'ai brodé autour l'allaitement. Qu'ils les mettent dans le beurre clarifié, ça oui. Mais après, ils grandissent. Et là, moi, j'ai élaboré, je me suis imaginé, mais comment on peut allaiter 60 000 fœtus? Les bébés, et puis le riz.
Est-ce que, à ta connaissance, est-ce qu'il y a eu déjà ce type de textes-là qui ont été dansés ?
En Inde ? J'ai jamais vu l'histoire des fils Sagara danser. Alors, ils peuvent danser en Bharatanatyam, pas en Kathakali, mais en Bharatanatyam. Ils peuvent créer des danses sur le Gange, la chute du Gange, mais en général, ils ne vont pas s'étaler comme moi j'ai fait l'histoire du Gange avec la naissance. Mais c'est pareil, tout à l'heure, pour revenir à ce que tu me demandais, le texte, la naissance de Ganga, il y a plusieurs versions aussi. Et moi, ce que j'aimais, c'était cette version avec le qui transpire des pieds, parce que moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est vraiment l'humanité des dieux aussi. L'humanité et puis la divinité des humains, enfin les pouvoirs qu'ils peuvent avoir et les dieux qui transpirent des pieds. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et puis que le Gange sorte, puis du coup elle est impétueuse aussi, c'est de la enfin voilà, elle a aussi ce caractère un peu transpirant.
que d'eau dans cette histoire.
Mais bon, j'ai aussi arrangé des choses. C'est vrai que c'est moi, je voulais une seule histoire, donc souvent les histoires sont éparpillées. Et moi, j'ai voulu vraiment créer une seule histoire, assembler les morceaux. Et pareil pour la malédiction avec Sarasvati. Il y a plusieurs versions. Et moi, je me suis aussi un peu arrangée pour que ça soit clair pour le public aussi. Parce que des fois, il y a des choses, ils disent un truc et puis ça revient pas après. Donc je me suis aussi... Il y a cette dispute avec Sarasvati. Mais elle n'est pas forcément maudite par Ganga à son tour. Mais après, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait un fleuve qui s'appelait la Sarasvati, qui a, qui existait, mais qui s'est desséché. Et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Elle peut l'avoir maudite. Voilà, je m'autorise aussi d'arranger l'histoire un petit peu, pas beaucoup, mais comme font les Indiens de toute façon. Voilà, pour qu'au moins il y ait une compréhension, un fil conducteur, que le public comprenne. Quoi.
Alors ce petit côté anglais, là, on parle anglais chez les dieux, l'explication de la chose.
Mais ça, je le fais dans les autres spectacles aussi, enfin dans la création du monde, parce qu'au départ, quand j'ai mis le pied dans le conte, j'arrivais pas à raconter en français, parce que moi j'avais entendu ces histoires en anglais indien, en malayalam, et puis je me suis dit, voyons, je vais les raconter en anglais. Et en anglais, j'avais les images qui venaient. Et après, je me suis dit, bon, ben, je vais faire parler les dieux en anglais. Parce que voilà, là-bas, voilà, ils parlent malayalam ou anglais. Et puis aussi, ça me mettait dans la musicalité de là-bas. Mm-hmm. Et puis ça, voilà, ça donne une note légère, ça humanise, voilà. Et je l'ai gardé. Au départ, je m'étais dit, oh, je vais peut-être pas faire comme la création du monde, mettre de l'anglais. Et puis c'est venu tout seul. Je me dis, mais pourquoi je vais m'interdire ? Parce que moi, ça me donne de l'élan. Ça me donne de l'élan, ça me donne des images. Et voilà. Et puis voilà, ça fait pas mal.
Ça donne une respiration ou autre.
Voilà, ça donne une respiration. Puis les gens, ils se disent, ah, mais voilà, les dieux deviennent familiers.
Il y
Et moi, j'ai tellement entendu dire, oh, les dieux indiens, il y en a tellement, on ne comprend rien, c'est trop ésotérique, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, moi, j'ai envie de les mettre aussi. Mais de toute façon, voilà, mon maître, il me racontait les histoires, mais comme ça. Il va les faire parler comme ça, juste en me racontant, voilà, de façon très légère. Et les histoires sont très cocasses, de toute façon, sont très...
Est-ce que ces histoires qui nous viennent d'Inde, toi, ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu penses que ces histoires, à nous autres Européens, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Enfin, je ne dis pas systématiquement, mais qu'est-ce que tu penses que c'est susceptible de nous apporter?
Alors déjà, c'est drôle. Moi, ça me fait rire, ça m'amuse. Il y a ce côté de ces dieux multiples qui ont une humanité déconcertante. Ils sont plus humains que les humains. Ils font des coups appendables. Ils ont un ego. Certains ont un ego démesuré. Donc ça déjà, moi ça me passionnait. Ces dieux là qui sont à notre portée. Donc est-ce que ça veut dire que les dieux ils sont en nous aussi? Enfin voilà, il y a toute cette interrogation. Par rapport au divin aussi, qui moi m'intéresse. Et là, le divin qui est à portée de main. Et ça, j'avais envie aussi de le transmettre. Un peu cette désacralisation des dieux aussi. Parce que c'est pareil, en Inde, il y a des gens qui disent « Oui, mais les acteurs, ils jouent pour les dieux, même parce que ça dure toute la nuit. » Donc, au bout d'un moment, les gens partent ou s'endorment. Et à 5 heures du matin, quand on joue, tout le monde dort. Et alors, on dit « Oui, on joue pour les dieux. » Oui, sauf que les acteurs de Katakali sont bien contents quand même quand il y a du monde et ils le disent. Ils disent quand même « Les dieux, c'est aussi les gens. » Enfin, nous, on est là pour... on a besoin du public.
Ce sont des artistes professionnels.
Oui, ce sont des artistes professionnels, la plupart. Ils vivent de leur art. Difficilement pour certains. Les stars, très bien. Mais quand je dis, même quand ils sont très bien payés, c'est quand même 3 heures de bus, 3 heures de préparation dans la chaleur, c'est jouer toute la nuit, c'est repartir 3 heures de bus, retour, dormir 3 heures et repartir. Donc c'est quand ils gagnent bien leur vie,
C'est pas volé, c'est bien mérité.
Ouais.
Une épopée, c'est pas rien. Combien de temps ça t'a pris de mettre en forme ce spectacle?
Donc ce travail sur la chevauchée du Gange a pris bien 2-3 ans. Mais comme c'était un spectacle que j'avais déjà commencé à élaborer dans ma tête, mais je m'en suis rendu compte après, il y a 10 ans, même 15 ans, où j'avais commencé à écrire. Donc voilà, il avait fait son chemin. Et puis moi, j'avais entre-temps eu le temps de poser aussi ma forme. Donc voilà, donc ça a été ces 3 ans pour faire ce travail-là. Et donc maintenant, mon travail est d'arriver à le vendre dans des scènes où je ne peux pas le jouer dans une médiathèque. Là, j'ai voulu aller atteindre aussi une autre dimension, être porté aussi un peu par la musique, atteindre voilà, une autre dimension un peu plus proche du katakali. Donc là, ça nécessite effectivement une scène.
Et du coup, tu dirais que c'est plus difficile à vendre ?
Le problème de la France, enfin d'ici, c'est aussi, alors on te met dans des cases. Alors, t'es conteur, t'es danseur ou t'es comédien ? Ben non, je suis les trois à la fois. En Inde, c'est comme ça. Alors déjà, voilà, mon spectacle, si je veux aller dans des scènes... Ah mais vous faites du théâtre, vous faites de la danse, vous faites du conte, qu'est-ce que vous faites ? Donc déjà, après, ah, mythologie indienne, ah oui, mais là, ah, c'est pas notre culture. Mais justement, ouvrez... Ouais, et ça, c'est le problème d'ici. Et de plus en plus, je me dis, bon, et ça fait longtemps que je le dis, mais il va falloir que je le fasse, faire mes histoires en anglais et pouvoir aller les jouer ailleurs. Parce qu'il y a d'autres pays où ils n'ont pas cette fermeture d'esprit.
Écoute, j'y pensais vraiment tout à l'heure à ça. Ce n'est pas une question que je t'ai posée, mais j'avais envie de te la poser parce qu'en fait, ton travail s'y prête très très bien. Oui. La dominante est quand même une dominante de danse, une dominante d'expression par le corps. Oui. Tu dis avoir recherché avec la danse un langage très précis, très concis aussi, permettant de guider, etc. Donc, voilà, il y a peut-être des possibilités si...
Mais tout à fait, mais ce qui me fait dire ça aussi, c'est que je suis allée en Pologne plusieurs fois raconter. Mmh. Et là, j'y suis allée avec la chevauchée du Gange. Et je me suis dit, il va falloir que je parle un peu plus anglais. Alors, c'était sous-titré. Je me suis dit, là, je vais pouvoir parler un peu plus anglais parce que, voilà, ils savent parler anglais. Et l'accueil qui a été fait, ils ont une ouverture d'esprit incroyable. À l'étranger, ils sont super ouverts.
Donc, à toi de jouer.
Voilà. Hein, à force de le penser et de commencer à le dire, va falloir... C'est pour ça que je commence à le dire. Comme ça, au bout d'un moment, on me dirait, mais arrête de le dire, fais-le. Mais c'est vrai que j'y songe.
Nathalie, je te remercie beaucoup.
Et avec puis, plaisir.
Et puis à très bientôt. Merci Nathalie.
Je te remercie. Au revoir.
C'était La Chevauchée du Gange avec Nathalie Leboucher. Je précise que Nathalie raconte aussi toutes sortes d'histoires de la mythologie indienne, y compris dans les médiathèques, bien sûr. Vous avez entendu, en accompagnement sonore, des morceaux du groupe nantais Mukta, emmenés par notre ami et contrebassiste magique Simon Marie. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter et même la télécharger sur le site www.c'estpaspourdire.fr et vous pouvez aussi nous laisser les commentaires sur notre page Facebook. Si vous avez un sujet d'émission pour nous, faites-le nous savoir également sur notre page Facebook. Et en tout état de cause, je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao !